Ce soir, nous recevons M. Didier Houssin, professeur de chirurgie et directeur général de l'établissement français des greffes et chef du service de chirurgie de l'hôpital Cochin. Donc, ses domaines de recherche sont les suivants. Donc, il a effectué des recherches sur la transplantation hépatique, chez l'enfant en particulier, sur la xénogreffe hépatique, la tolérance hépatique et le transfert de gènes dans le foie. Il a reçu les prix suivants, le prix Jean Hamburger de la ville de Paris pour les travaux qu'il a menés sur la greffe hépatique chez l'enfant en 1993 et le prix d'investigation clinique de la Fondation pour la recherche médicale en 1984. Très important, il vient de publier aux éditions de Noël l'ouvrage intitulé « L'aventure de la greffe ». Et comme vous avez pu le constater, il nous a apporté ce document d'information sur sur les dons d'organes, pardon. Et j'espère que vous l'avez pris au passage. Et je tiens donc à saluer particulièrement M. Houssin, qui nous a aidés depuis le début, depuis 2 ans, que nous travaillons sur ce projet à l'Université de tous les savoirs. Donc, comme chaque soir, 50 minutes de conférence et 20 minutes de questions. Je vous remercie.
Alors donc aujourd'hui, le sujet, c'est les greffes. Alors en guise d'introduction, je voudrais d'abord remercier la mission pour l'an 2000 qui a organisé ces conférences, et en particulier monsieur Michaud, qui a été l'instigateur de ce cycle de conférences, et je suis très honoré de participer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est le jour du printemps, enfin c'était hier, mais c'est presque aujourd'hui. Et je crois que c'est un très bon jour pour parler de la greffe, parce que, comme vous le savez, la greffe a beaucoup à voir avec la question de la Renaissance. Et à ce propos, je vous signale que le dieu du printemps, dans l'ancien Mexique, qui s'appelait Xipetotec, était un homme qui était recouvert, vêtu de la peau d'un autre homme. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de liens entre les greffes et le printemps. Alors, après une brève introduction, je vais diviser cette conférence en 4 parties. Dans une première partie, j'aborderai la question du combat pour la vie, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit en priorité. Ensuite, j'évoquerai des questions qui tournent autour de la mort et en quoi la question des greffes a conduit à une nouveauté dans le domaine de la mort. Enfin, j'évoquerai des questions qui ont trait plus à la dimension corporelle de la greffe, et je parlerai du bouleversement que la greffe constitue au niveau du corps humain et du rapprochement des corps qu'elle effectue. Et enfin, dans une 4e partie, je dirais de quelle manière la greffe devient finalement un phénomène social, avant de conclure ensuite. Alors, je crois qu'une chose qu'on peut dire à propos de la greffe, c'est qu'elle se caractérise par un grand succès sur le plan thérapeutique dans la grande majorité des cas. Je ne dis pas dans la totalité des cas, parce qu'effectivement, la greffe n'est pas à l'abri d'échecs, de déconvenus, et il ne faudrait pas en faire un traitement miracle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se caractérise par une grande efficacité thérapeutique, et à ce jour, on peut estimer que des dizaines de milliers de malades dans le monde ont eu une greffe. Alors, pour parler de la greffe, il est utile, je crois, de choisir un espace de temps et de fixer un début et une fin. Naturellement, c'est très artificiel, mais on peut choisir un début en pensant en particulier à la première greffe d'organes effectuée chez l'homme. Et l'homme que vous allez voir apparaître sur cette diapositive, eh bien, c'est celui qui a fait la première greffe d'organes chez l'homme. C'est un chirurgien lyonnais, il s'appelait Mathieu Jaboulet. Il a fait ça en janvier 1906. Il a greffé le rein d'un cochon chez une femme, une jeune femme, qui mourait d'insuffisance rénale. La malade est morte, évidemment, mais à cette époque-là, on mourait constamment d'insuffisance rénale. Et donc, c'est lui qui a réalisé la première greffe d'organes chez l'homme. Et d'une manière intéressante, si on veut considérer que, eh bien, le siècle, le XXe siècle, a été le siècle de la greffe, eh bien, c'est à Lyon aussi que l'affaire s'est conclue pour cette première étape, comme vous le savez, par la greffe de main qui a été effectuée en 1998. Alors, je vais aborder maintenant le premier chapitre. Ces chapitres sont de part à peu près égales. Et le premier chapitre, eh bien, il concerne la question du combat pour la vie. La question du combat pour la vie, ça nous amènerait théoriquement à parler de manière approfondie, préalablement, de la vie. Mais je sais, pour avoir vu le programme, que la question de la vie a été largement abordée, et je ne vais donc tenter de me substituer aux conférenciers qui ont développé tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur la vie. Ce que je voudrais en revanche évoquer, c'est le fait que la greffe a été au départ une affaire végétale. C'est de l'art du jardinier, c'est de la technique horticole qu'a été issu le concept, qui est issu le concept de greffe. Et Virgile lui-même évoquait la surprise que constitue pour un arbre le fait de s'apercevoir tout d'un coup qu'il est porteur de fleurs et de fruits nouveaux. Et il est certain que c'est dans le savoir-faire du jardinier que l'idée de greffe a germé lorsqu'il s'est agi de s'intéresser à la greffe en médecine. La greffe, ça représente aujourd'hui trois grandes catégories. La première grande catégorie, c'est ce qu'on appelle les greffes d'organes. Le philosophe Foucault appelait les organes des masses fonctionnantes. Ce qu'on appelle masses fonctionnantes, ce sont par exemple le cœur, le foie, les poumons, le rein, le pancréas, l'intestin. Voilà des organes. Et effectivement, les organes, c'est une part importante des greffes. Pour vous donner un exemple, l'année dernière en France, ont été effectuées à peu près 3000 greffes d'organes. Ça vous donne une idée de la dimension du secteur. Et il y a une deuxième catégorie de greffes qui est moins connue et pourtant qui est tout aussi importante sur le plan thérapeutique, c'est ce qu'on appelle les greffes de tissus. Foucault appelait les tissus des plages fonctionnelles. Et ces greffes de tissus, eh bien, ce sont les greffes de peau, de cornée, de valves cardiaques, les greffes de tendons, les greffes de vaisseaux, d'artères ou de veines. Voilà ce que sont les greffes de tissus. Les greffes de tissus osseux également, ce sont les greffes les plus fréquentes. On les fait chaque année par milliers. Et l'année dernière, on a dû faire en France une bonne dizaine de milliers de greffes de tissus, les plus fréquentes étant les greffes de tissus osseux. Et ensuite, les greffes de cornée. La troisième catégorie de greffes qu'il faut connaître aussi, c'est ce qu'on appelle les greffes de cellules. Vous savez que la cellule est le composant le plus ultime des êtres vivants complexes. Et cette cellule, eh bien, elle est greffée. Et aujourd'hui, elle est greffée de manière courante lorsqu'il s'agit d'une cellule particulière qu'on appelle la cellule souche hématopoïétique. Ce nom un petit peu particulier définit en fait des cellules qui ont la capacité de produire les globules du sang que vous connaissez, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Ces cellules hématopoïétiques sont indispensables dans le traitement de certaines maladies hématologiques graves, comme par exemple les leucémies. Et chaque année en France, on fait à peu près aussi 3 milliers de greffes de cellules hématopoïétiques dans le traitement de ces maladies très graves. Alors donc, le champ étant maintenant à peu près défini, je voudrais aborder successivement un certain nombre de points qui caractérisent le combat pour la vie dans le domaine des greffes. Le premier chapitre, c'est celui de l'attente. Ce qui caractérise aujourd'hui la greffe, c'est que c'est une thérapeutique qui ne peut pas être mise en œuvre immédiatement. Et en médecine, c'est une chose tout à fait particulière. Vous allez me dire, il y a des pays où il y a aussi des listes d'attente, y compris pour des interventions bénignes. Mais la greffe est tout de même caractérisée par ce fait, c'est que non seulement on est malade, mais en plus, on est obligé d'attendre le traitement que l'on espère salvateur. Et cette attente, elle est extrêmement pénible pour les malades. Elle est source de grande inquiétude, de grande incertitude. Est-ce que la greffe pourra être faite à temps? Est-ce que je ne risque pas de voir ma maladie s'aggraver avant que la greffe soit faite? Est-ce que je ne risque pas de mourir avant que la greffe soit faite? Et chaque année en France, eh bien, quelques centaines, environ 300, personnes décèdent avant que l'on ait pu leur proposer le greffon espéré. Et j'ai trouvé dans un livre une représentation de l'attente qui a été faite par un peintre belge qui s'appelle Léon Spilliart. Et je trouve qu'elle traduit très bien le caractère à la fois déterminé mais en même temps d'immobilisation forcée et que représente cette attente pour les malades. L'attente d'un organe, comme je l'ai dit, peut être tout à fait vital, mais il peut s'agir, dans le cas des cellules hématopoïétiques, de l'attente du greffon compatible. Car effectivement, en matière de cellules hématopoïétiques, il est nécessaire non pas seulement de trouver un greffon, mais de trouver un greffon qui soit parfaitement compatible avec le receveur. On aura l'occasion de revenir sur cette question de la compatibilité. Alors, le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est que le combat pour la vie en matière de greffe, c'est la lutte d'une équipe, et d'une équipe dont il est important de mesurer toute la dimension, qui est beaucoup plus importante que vous l'imaginez. C'est-à-dire qu'effectivement, l'équipe de greffe, c'est celle qui, chirurgicalement, le plus souvent, va mettre en œuvre la greffe. Mais en pratique, il se passe en amont beaucoup de choses. Il y a en particulier l'hôpital où s'effectue le prélèvement. Cet hôpital A, il peut être situé à grande distance de l'hôpital où va se faire la greffe. Et d'autre part, au cours du prélèvement, plusieurs éléments du corps humain vont être prélevés, et ces éléments vont être adressés rapidement dans plusieurs hôpitaux où vont se faire les greffes. Donc, entre l'hôpital A où se fait la greffe et les hôpitaux B, C, D et autres où se font les greffes, eh bien, il y a tout un temps de passage et toute une organisation logistique avec des gens qui transportent les avions, les motards, le train, etc. Toute cette activité est une activité bien souvent nocturne, d'ailleurs. Et quand vous voyez passer l'ambulance avec les motards et marqué « greffe » dessus, eh bien, c'est qu'il y a une équipe qui se dispose vraisemblablement à aller prendre un avion très rapidement pour aller dans l'hôpital où va se faire le prélèvement. Cette activité se fait sous contraintes temporelles extrêmement importantes. Pour une raison très simple, c'est que certains greffons ne peuvent pas tolérer d'être en dehors du corps humain pendant plus de quelques heures. Et donc le greffon, c'est une affaire, la greffe, c'est une affaire d'avion, de téléphone, d'informatique, de rapidité. Pour coordonner tout cela, dans chaque pays qui a développé cette activité, eh bien, pour coordonner tout cela, il y a un organisme qui a un rôle, je dirais, d'organisation, de coordination, de régulation. En France, c'est l'Établissement français des greffes, qui est une agence de l'État, et qui donc est chargée de jouer ce rôle de recueillir les informations concernant les prélèvements, de les transmettre aux équipes de greffe et d'assurer tout ce passage qui se fait du prélèvement à la greffe. Alors, pour essayer de représenter de manière un petit peu schématique, vous avez ici l'établissement de santé, vous voyez l'hôpital, avec l'équipe d'anesthésie-réanimation et de réanimation qui s'occupe du donneur et qui va faire le diagnostic de la mort. Une fois que le constat de la mort est fait, eh bien, il y a effectivement une équipe qui va prendre en charge l'activité de prélèvement, et puis tout ceci est transporté aux équipes de greffe, et l'Établissement français des greffes, lui, joue un rôle de coordination à travers ses services interrégionaux et son service de régulation nationale. Il y a d'ailleurs des échanges qui peuvent se faire avec les pays voisins lorsqu'un greffon ne trouve pas de receveur dans le pays où il a été prélevé. Le troisième aspect que je voulais évoquer dans ce premier chapitre, c'est la question des racines. Il est important d'essayer de situer les raisons qui ont conduit au développement des greffes, et je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y a, de ce point de vue-là, des racines qui remontent très loin. Et dans les textes sacrés, ne serait-ce que dans les textes sacrés, on trouve des références fréquentes à des phénomènes de réimplantation, de gestes thérapeutiques qui, en fait, sont assez analogues aux techniques de greffe. Et je crois que s'il y a une histoire, en particulier dans la religion chrétienne, qui est tout à fait symptomatique de cette racine qu'on peut trouver à la greffe, eh bien, c'est la légende qui avait été rapportée par un écrivain qui s'appelait Jacques de Voragine dans la Vie dorée des saints, et qui fait référence à une greffe de jambe qui avait été pratiquée chez un sacristain. Et cette légende a été illustrée quelques années plus tard par un de ses collègues dominicains qui s'appelait Fra Angelico et qui a fait un tableau que je vais vous montrer. Et ce tableau, eh bien, il a été représenté d'ailleurs par d'autres peintres. Vous voyez le malade, qui est en l'occurrence un sacristain, Saint Côme et Saint Damien, qui depuis sont devenus d'ailleurs les patrons des chirurgiens, Saint Côme et Saint Damien qui sont en train de greffer la jambe d'un mort, M-A-U-R-E, qui était aussi mort et qui était destiné à remplacer la jambe malade du sacristain. Et cette représentation a beaucoup marqué les esprits, et je crois qu'il y a de très nombreux peintres qui ont repris cette histoire de Côme et Damien. Mais il n'y a pas que dans la religion chrétienne que l'on trouve des références à la greffe. On en trouve également dans l'Ancien Testament, on en retrouve dans le Coran, et on en retrouve également dans des légendes qui sont plutôt de tradition extrême-orientale, et dans le taoïsme en particulier, il y a un médecin un petit peu divinisé qui s'appelait Pin Chao, et ce Pin Chao avait, il y a fort longtemps, réalisé la greffe de cœur entre deux êtres humains qui étaient malades. Donc on trouve, si vous voulez, dans le passé, des références à cette question des greffes. Je voudrais maintenant évoquer d'une manière plus scientifique quelles ont été les étapes qui ont conduit à la possibilité de faire des greffes. Et je crois que l'étape la plus importante, la première, celle qui a valu d'ailleurs le prix Nobel à Alexis Carrel, c'est la possibilité de réaliser une anastomose vasculaire, chose qui ne pouvait pas se faire auparavant, la possibilité de rabouter une artère avec une autre artère, une veine avec une autre veine. Cette avancée a été tout à fait déterminante. C'est elle qui a permis le développement de la chirurgie vasculaire, le développement de la chirurgie cardiaque et le développement, bien sûr, des greffes d'organes. Je crois qu'on peut identifier quatre autres étapes, et le prix Nobel, de ce point de vue-là, est pratique parce qu'il permet d'identifier des étapes qui ont bénéficié d'un jugement collectif. Et les autres étapes que je voudrais mentionner, eh bien, c'est tout d'abord la mise en évidence du rôle des groupes sanguins dans le rejet des greffes, et Landsteiner, en 1930, a eu le prix Nobel pour avoir découvert les groupes sanguins ABO. Il faut également mentionner, un peu plus tardivement, dans les années 50-60, la découverte du rôle du système immunitaire dans le déclenchement du rejet des greffes. Et ce système immunitaire, eh bien, je l'ai représenté ici par une goutte de lymphe, c'est-à-dire d'un liquide qui contient les cellules qui sont responsables de cette réaction immunitaire, qu'on appelle les lymphocytes. Eh bien, Medawar et Burnett ont eu en 1950 ou 60, je ne sais plus, le prix Nobel pour avoir mis en évidence le rôle du système immunitaire dans le rejet des greffes expérimentales. Et puis, des étapes ensuite ont été, de manière très importante, la mise en évidence du rôle de certaines molécules à la surface des cellules dans le déclenchement de ce rejet. Ça a été la mise en évidence des antigènes d'histocompatibilité, qui a valu le prix Nobel, comme vous le savez, en 1980 à M. Benacerraf, M. Dosset et M. Snell. Et puis enfin, plus récemment, en 1990, le prix Nobel qui a été donné à Murray et Thomas pour avoir mis en évidence le rôle, l'efficacité de certains médicaments immunosuppresseurs dans la prévention du rejet. Donc vous avez ici, à travers cette succession de prix Nobel, eh bien, d'abord la possibilité, le savoir-faire qui a permis la greffe, puis la connaissance des mécanismes biologiques qui interviennent dans le rejet des greffes, et enfin la découverte des médicaments qui jouent un rôle dans la prévention du rejet et qui permettent l'acceptation des greffes. Alors, il ne faudrait pas oublier pour autant certaines observations plus médicales et moins scientifiques, et j'en dirai un petit mot tout à l'heure à propos de la mort, et il ne faut pas oublier non plus que les premières, ces événements, malheureusement, qui ont en général été des échecs sur le plan médical, ont eu un rôle déterminant dans la capacité à déclencher des processus. Et il est sûr que les premières greffes qui ont été si médiatisées et qu'on peut d'ailleurs d'une certaine manière contester sur le plan médical ont eu quand même la possibilité, la vertu d'ouvrir la voie pour des succès ensuite. Alors il faut enfin dire un petit mot à propos du combat pour la vie, du fait que c'est bien souvent des succès, mais ça peut aussi être des échecs. Alors en ce qui concerne les succès, eh bien j'ai choisi de vous montrer la diapositive d'un dessin d'enfant qui avait été fait par une petite fille que j'avais greffée il y a maintenant de nombreuses années. Et 5 jours après la greffe, cette petite fille de 7 ou 7 ans environ avait fait ce dessin. Et vous voyez qu'il y a encore la masse très sombre de la maladie qui est encore présente, mais que transparaît ici, on ne voit pas très bien, mais le soleil. Et cette petite fille qui va très bien maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que dans beaucoup de cas, la greffe permet de prolonger la vie de malades dont l'existence était promise à l'interruption à brève échéance. En revanche, un autre contexte, c'est que la greffe permet également la guérison de maladies qu'on croyait inguérissables. Et pour vous donner un exemple, voici, il s'agit de leucémie aiguë d'enfants ayant une leucémie aiguë myéloïde. Eh bien, vous voyez que si l'on prend l'ensemble des enfants qui ont été traités et qui ont eu une greffe, avec les différents stades de la maladie, eh bien, vous voyez qu'un nombre important d'enfants sont vivants après de nombreux mois et vont peut-être vivre pendant de nombreuses années, alors qu'au départ, c'était une maladie qui était considérée comme en permanence mortelle. Alors, je voudrais maintenant aborder le deuxième chapitre et dire un mot de la question de la mort. Car je crois que, dans la majorité des cas, la greffe apparaît comme une circonstance où véritablement une naissance semble émerger à partir de la mort. Ce qui est un petit peu particulier, mais qui est expliqué pour la raison suivante. C'est que la mort, d'abord, elle a une longue histoire en ce qui concerne sa constatation. C'est-à-dire que ça fait des millénaires que l'on s'est habitué à une certaine apparence de la mort, le cadavre froid, pâle, immobile, ne respirant plus, etc. C'est une apparence à laquelle l'homme s'était habitué pendant des millénaires. Et ce qui s'est passé, c'est que au début des années 50, eh bien, il y a eu un changement dans l'organisation du ramassage des blessés, du ramassage des malades graves, qui a fait que, soudain, il a été possible de rapporter, de ramener, plus exactement à l'hôpital, des personnes très gravement blessées ou très gravement malades, qui, quelques années auparavant, auraient vu s'arrêter leur cœur immanquablement avant même le ramassage. Eh bien, ces personnes ont été ramassées, on a engagé des manœuvres de réanimation, et la personne qui a été ramenée à l'hôpital était une personne dont le cœur battait encore, éventuellement d'ailleurs avec un soutien artificiel de la respiration. Et ce que certains médecins ont constaté, et je voudrais dire un mot de cela parce que c'est un événement très important, c'est M. Goulon et M. Mollaret, deux médecins français qui, en 1959, ont fait l'observation pour la première fois de ce qu'on appelle aujourd'hui la mort cérébrale ou mort encéphalique. C'est un état qui se caractérise par une destruction irréversible des fonctions cérébrales en réanimation, dans un service de réanimation. Mais cette destruction irréversible des fonctions cérébrales coexiste avec le maintien pendant quelques heures et quelques heures seulement d'une activité cardiaque et respiratoire. Cette coexistence d'une certaine persistance, d'une certaine viabilité et d'une destruction irréversible du cerveau, ça s'appelle la mort encéphalique ou mort cérébrale. À cette époque-là, ils avaient appelé ça coma dépassé, et puis le mot a été abandonné parce qu'il est apparu qu'il risquait d'y avoir confusion entre ce coma dépassé, qui est en fait un état de mort, et le coma chronique, qui est un état végétatif qui peut durer pendant de nombreuses années et où en fait les personnes ne sont pas mortes. Alors, pour vous donner une illustration de cela, je crois que la première chose est qu'effectivement, pendant très longtemps, l'homme a eu peur d'être enterré vivant. Voilà une illustration du livre de Vézal, grand livre d'anatomie, et l'homme a eu peur d'être enterré vivant, et en matière de mort encéphalique, il est certain que la confiance dans la réalité de la constatation, dans la réalité du diagnostic, est un élément tout à fait important. C'est la raison pour laquelle, en France et dans beaucoup de pays, le diagnostic de mort encéphalique ne peut être porté que dans des conditions bien précises de constatation clinique, c'est-à-dire la disparition de tous les signes de fonctionnement du cerveau, mais aussi avec, en général, dans la plupart des pays, une confirmation, je dirais presque visuelle, par un examen qui vient authentifier le caractère irréversible de l'atteinte cérébrale, électroencéphalogramme, et vous connaissez tous le tracé nul ou plat de l'électroencéphalogramme, mais aussi l'artéographie. Et ce cliché d'artéographie vous montre l'injection qui a été faite dans les artères carotides ou vertébrales avec l'absence de vascularisation du cerveau, c'est-à-dire l'absence d'injection des artères qui vont dans le cerveau. Par comparaison, voici un état de coma végétatif chronique où, au contraire, vous voyez, il y a des artères injectées un petit peu partout dans le cerveau qui témoignent de la vascularisation normale du cerveau. Cette personne est morte, cette personne n'est pas morte. Alors, en ce qui concerne la mort et le diagnostic de mort encéphalique, l'élément important, c'est que non seulement cette mort encéphalique a été observée, mais elle a été peu après reconnue du point de vue légal comme un état de mort. Tous les pays n'ont pas eu cette tendance, et un pays comme le Japon, par exemple, ne vient que très récemment de reconnaître que la mort cérébrale est un état de mort du point de vue légal. Mais quoi qu'il en soit, il était sûr que c'est l'identification de cet état qui a rendu possible, à partir des années 60, le développement des greffes, pour une raison que vous comprenez bien, c'est qu'il devenait possible de prélever, dans des conditions satisfaisantes, des greffons ayant préservé un certain degré de viabilité. Alors, ceci nous conduit à une grande difficulté qui est celui du recueil du consentement de la personne décédée. Il est bien sûr difficile d'obtenir le consentement d'une personne défunte, et c'est la raison pour laquelle, autour de cette question de mort cérébrale et autour de cette question de prélèvement, s'organise quelque chose de très complexe, qui est le recueil du consentement, le rôle de la famille, et la difficulté qu'il y a d'obtenir un consentement au prélèvement dans ces circonstances. Et la difficulté, elle est la suivante, c'est que premièrement, cet état de mort cérébrale est exceptionnel. Il n'est observé que dans 2000 décès hospitaliers en France, et vous savez que chaque année en France, il y a à peu près 300 000 décès observés dans l'hôpital par rapport à un total d'environ 550 000 décès chaque année en France. Donc vous voyez que le nombre de sujets, de personnes en état de mort encéphalique est un nombre extrêmement restreint. C'est un état très rare qui n'est observé qu'en réanimation. La deuxième difficulté, c'est qu'il s'agit toujours d'un décès brutal. C'est-à-dire que ce n'est pas le décès attendu, c'est le décès inattendu du jeune homme qui a un accident de la voie publique, de la dame qui fait une rupture d'anévrisme intracérébral à une hémorragie foudroyante, de celui qui se pend, qui se tire une balle dans la tête, qui se noie. C'est ça la mort cérébrale, c'est-à-dire ce sont des circonstances de décès brutales, inattendues, donc inacceptables pour la famille. Et la famille se trouve dans un état de deuil brutal, avec toutes les réactions de fermeture, de violence qui s'exercent, qui s'expriment à ce moment-là. Et vous comprenez bien qu'il est alors extrêmement difficile d'évoquer la question du prélèvement et d'imaginer qu'on peut recueillir un consentement raisonné, serein dans ces circonstances. C'est la raison pour laquelle il a été nécessaire, premièrement, de prendre la mesure du fait qu'il fallait dissocier autant que possible et malgré la contrainte de temps, puisque, comme je l'ai dit, le cœur ne bat que quelques heures, dissocier l'annonce du décès de l'abord de la question du prélèvement. Que deuxièmement, il fallait créer un environnement propice à ce dialogue avec la famille. Et donc que l'hôpital devait s'adapter. L'hôpital s'est adapté à la question de la mort sous l'angle médical depuis déjà bien longtemps. Depuis que Bichat avait mis en évidence le fait qu'il pourrait être utile en médecine de faire des autopsies. Et donc ça fait des années que l'hôpital, à travers les services d'anatomie pathologique, à travers la morgue, s'est occupé de la mort survenue en ces lieux. Mais avec la greffe, c'est une nouveauté qui apparaît, c'est que la personne décédée peut non seulement être, utile à certains malades, mais elle est la source même du greffon qui va être utilisé pour soigner quelqu'un. Et donc, l'hôpital s'organise en créant un lieu propice au dialogue avec la famille, en essayant de faire en sorte que les personnes qui dialoguent avec la famille dans ces circonstances, médecins, infirmières, soient formées, comprennent qu'il y a là une relation psychologique extrêmement délicate. Et c'est tout le travail qui est aujourd'hui en cours et qui est d'une grande difficulté pour essayer d'illustrer la difficulté de ce dialogue et ses conséquences. Et j'aborderai plus tard les questions juridiques relatives au consentement. Je voudrais vous montrer simplement la chose suivante. Voilà, vous avez ici l'ensemble des personnes en état de mort encéphalique recensées en 1998. Eh bien, on en a prélevé 53%. La grande majorité des non prélevés, qui représentent 47%, sont dus à une opposition. C'est-à-dire que la famille, dans tous ces cas-là, a dit « Non, mon parent n'est pas d'accord pour un prélèvement » ou elle a dit les choses de manière telle que ça a été perçu comme cela. Et en pratique, le prélèvement n'a pas été fait. Donc vous voyez, ça représente un taux d'opposition qui est très important et qui est lié, qui peut dans certains cas être lié véritablement à une volonté définie du défunt de s'opposer, mais qui le plus souvent est liée aux circonstances dans lesquelles le deuil et le décès est survenu et aux conditions dans lesquelles s'engage le dialogue avec la famille. C'est la raison pour laquelle le seul message qu'on peut faire passer, c'est qu'il faut y penser avant, en parler avant en famille et si possible exprimer sa position sur ce point. J'y reviendrai. La deuxième diapositive que je voulais vous montrer, c'est que la situation dans les différents pays n'est pas la même. Et il y a un pays aujourd'hui qui se caractérise par une très grande efficacité en matière de prélèvement chez les sujets en état de mort encéphalique. Ici, c'est le taux de prélèvement par million d'habitants. C'est l'Espagne. La France est ici. Vous voyez, on est dans une moyenne, je dirais, une moyenne. L'Espagne, pourquoi ? Parce que l'Espagne a pris très tôt l'importance de développer les greffes de reins, à la fois sur le plan sanitaire et économique, et a mis en place dans les hôpitaux un dispositif très dense d'organisation du prélèvement reposant sur des médecins, des infirmières. Et je dois dire qu'en France, on est en train de suivre cette orientation et j'espère que ça se traduira par des résultats parallèles. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur la question de la mort. Et je vais en venir maintenant à mon troisième chapitre, qui est le chapitre sur la question du rapprochement du corps, des corps et du bouleversement de ce corps. Alors, je crois que si on peut dire que la médecine, que la greffe est une médecine du corps, je crois que ça peut paraître pour un euphémisme, même si il y a des dimensions psychologiques évidentes pour le receveur à recevoir ainsi un organe provenant d'une personne étrangère. Et à ce propos, je vous invite, si vous êtes intéressé, à lire le livre d'un philosophe qui s'appelle M. Nancy, qui vient de lire un petit livre qui s'appelle L'Intrus, et qui est un livre très intéressant où il explique justement quels sont les sentiments que peut ressentir un malade lorsqu'il a été greffé concernant la présence de cet intrus en lui. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la greffe suppose un prélèvement. Ce prélèvement est un acte chirurgical qui se déroule dans les circonstances de tout acte chirurgical et avec les mêmes conditions d'asepsie. Et cet acte chirurgical va mettre en circulation les éléments du corps humain, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui vont aller vers tel ou tel hôpital. Et il arrive parfois que ceci prenne une dimension européenne. Et moi, j'ai vécu des prélèvements où, effectivement, le bloc cœur-poumon allait en Angleterre, le foie en France, le prélèvement avait été fait à Valence, les reins restaient en Espagne, etc. Donc, si vous voulez, il y a une dimension géographique très importante qui rappelle, d'ailleurs, par certains aspects, la circulation des reliques au temps du Moyen-Âge. Alors, un point très important concernant la circulation de ces greffons, c'est que ces greffons sont en situation précaire, c'est-à-dire que leur viabilité est en permanence compromise et il est nécessaire, pour éviter qu'ils ne meurent, ces greffons, d'aller vite et de les préserver autant que possible. Et pour les préserver, une seule solution aujourd'hui, le refroidissement. Si le greffon n'est pas préservé, il se produit un phénomène de nécrose à l'intérieur du greffon et vous risquez malheureusement d'observer ceci, c'est-à-dire une petite fille qui a été greffée quelques heures ou quelques jours auparavant. Et voyez, on ne voit pas très bien sur cette diapositive, mais c'est un greffon qui est augmenté de volume avec des plages un petit peu inquiétantes. C'est un greffon qui est totalement nécrosé. C'est une petite fille qu'il a fallu regreffer d'extrême urgence. Donc la nécrose du greffon, si vous voulez, c'est un phénomène extrêmement inquiétant sur le plan de la vie du receveur et ça explique pourquoi il faut aller vite et il faut refroidir. Alors, pour ça, on injecte un liquide froid dans le greffon, on le conserve au froid et on essaye de le transporter très rapidement, en quelques heures, pas plus. Pour certains tissus, on a la possibilité, parce que les tissus sont plus résistants, de les conserver dans une banque, éventuellement pendant de longs mois. Mais ça n'est pas possible pour les organes. Alors bien sûr, une manière de progresser, ce serait d'arriver à constituer une banque d'organes, donc d'arriver à conserver les organes pendant de nombreux mois ou de nombreuses années. Mais on ne sait pas le faire. Pourquoi on ne sait pas le faire? Parce qu'il y a des problèmes d'homogénéité du refroidissement, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'éviter la cristallisation de l'eau à l'intérieur des cellules, et les cristaux de glace qui se forment sont des espèces de petites épées qui viennent transpercer toutes les petites structures qu'il y a à l'intérieur des cellules. Alors, on a essayé d'éviter cette cristallisation en utilisant des antigels, des sortes d'antigels, mais ces antigels sont toxiques. Et aujourd'hui, on est capable de congeler à très basse température des organes de petits animaux comme la grenouille, mais on n'est pas capable de conserver de cette manière des organes humains. Alors, le deuxième aspect que je voudrais évoquer, c'est celui de la greffe elle-même. La greffe est une sorte de voyage chirurgical qui consiste en fait à, bien souvent, à substituer l'organe malade, c'est-à-dire à retirer l'organe malade et à mettre en place le greffon. Pour vous illustrer, je ne vais pas vous écraser de photos chirurgicales qui sont toujours un petit peu traumatisantes, mais je vais quand même vous montrer l'apparence. Alors, malheureusement, il faudrait faire du noir parce qu'on ne voit pas très bien, mais voilà un foie cirrhotique. Vous voyez, c'est une enfant qui avait un foie de cirrhose. Vous voyez, ce foie horrible, jaune, voilà. Voilà comment c'est un foie de cirrhose. Et après la greffe, on met en place un greffon qui a, lui, une allure beaucoup plus sympathique. Vous voyez, c'est un foie qui est tout à fait rose, qui a une surface lisse, qui a une bonne coloration. Voilà un greffon qui a une allure satisfaisante. Et pour vous montrer un peu ce que ça représente sur le plan du montage, de la technique, eh bien, pour faire une greffe de foie, il faut faire une anastomose au-dessus du foie au niveau de la veine cave, au-dessous du foie au niveau de la veine cave, il y a la veine porte, il y a l'artère hépatique, il y a la voie biliaire. En gros, c'est un geste chirurgical relativement long qui prend plusieurs heures et les principes sont à peu près les mêmes pour une greffe de cœur, une greffe de poumon, une greffe de pancréas, une greffe de rein. Donc voilà en ce qui concerne, je dirais, la technique chirurgicale. Mais une fois que l'acte chirurgical est effectué, l'affaire n'est pas terminée et commence à ce moment-là une mise en conflit qui est une mise en conflit biologique qui résulte de la confrontation de différences, de deux différences, d'une différence plutôt qui est celle qu'il y a entre le donneur et le receveur, qui sont différents sur le plan biochimique parce qu'ils sont différents sur le plan génétique et en dehors de circonstances de parenté tout à fait spéciale, eh bien, un donneur humain est toujours différent, d'une certaine manière, génétiquement et donc biologiquement, d'un receveur humain. Et il se déclenche, de ce fait, une réaction immunitaire de rejet qui va aboutir à la destruction du greffon. Cette destruction du greffon, ce n'est pas une éjection du greffon hors du corps du receveur, c'est un phénomène inflammatoire, une sorte de maladie qui s'installe au niveau du greffon. Et cette maladie, eh bien, elle peut se traduire de manière aiguë par une sorte de crise de rejet aigu ou par un phénomène chronique qui va prendre quelques mois ou quelques années et aboutir petit à petit à la dégradation de la fonction du greffon qui, elle, peut conduire à la nécessité d'une nouvelle greffe ou malheureusement parfois au décès du receveur. Alors, pour essayer d'éviter cette évolution, eh bien, les traitements immunosuppresseurs dont j'ai parlé, l'utilisation de médicaments est la seule solution aujourd'hui pour éviter ce phénomène de rejet. Alors voilà une représentation d'une des molécules, c'est celle de la cyclosporine, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est une molécule qui a la capacité d'agir sur les lymphocytes du système immunitaire, de modifier leur réactivité, et qui est donc un médicament que prennent beaucoup de malades ayant eu une greffe. Ça n'est pas le seul médicament. Je vous dirai un tout petit mot tout à l'heure des autres médicaments, où je vais peut-être le faire maintenant en vous disant qu'il y a effectivement d'autres molécules qui s'apparentent à la cyclosporine, mais il y a également le tacrolimus, le sirolimus, les corticoïdes, les anticorps monoclonaux, les anticorps polyclonaux. Bref, il y a toute une batterie, tout un arsenal de médicaments qui sont à la disposition des médecins qui s'occupent des malades ayant eu une greffe, et ces médecins ont pour rôle d'essayer de préserver un équilibre, car ces traitements immunosuppresseurs ont des inconvénients. Ils abaissent les défenses immunitaires, donc ils exposent à un risque infectieux, ils exposent sur le long terme à un risque de cancer, et toute la difficulté, toute l'habileté du médecin est d'essayer de trouver l'équilibre entre le maintien de la fonction du greffon, c'est-à-dire d'éviter les phénomènes de rejet, sans pour autant avoir un effet immunosuppresseur trop puissant qui risquerait d'avoir des conséquences néfastes pour le malade du point de vue infectieux ou du point de vue du risque de cancer. Cet équilibre est difficile et il est plus ou moins difficile de le tenir selon les types de greffes. Et pour illustrer cela, je vais vous montrer deux courbes de survie qui sont celui d'abord la survie des greffes de rein. Vous voyez ? À gauche, vous avez le pourcentage de malades greffés, 100%, on part de 100%. Vous voyez que le nombre de personnes qui meurent dans les suites de l'intervention, qui perdent leur greffon, est assez faible. Et au fur et à mesure des années, vous voyez 85-87, 88-91, 92-96, les résultats se sont améliorés. La courbe de survie s'est améliorée. Mais vous constatez une chose, c'est que c'est une courbe qui a tendance quand même à descendre. Et cette descente, elle est due essentiellement au phénomène de rejet chronique qui, au fil des années, surviennent et qui, petit à petit, conduisent certains malades à perdre leur greffon. Alors, par exemple, par comparaison, eh bien, la greffe de foie, et là, vous constatez que le risque de l'opération est beaucoup plus important. Vous voyez qu'un certain nombre de personnes décèdent dans les suites immédiates de l'intervention, mais la courbe est plus horizontale. Et là aussi, il y a une amélioration constatée des résultats au fur et à mesure des années. Mais vous voyez que le foie est un organe qui a une certaine résistance au rejet. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sa masse, le nombre d'antigènes qu'il présente, ses capacités de régénération sont certainement des éléments qui interviennent dans ce phénomène. Alors, je voudrais maintenant terminer ce chapitre sur la question corporelle pour évoquer la difficulté principale aujourd'hui en matière de greffe, c'est il faut trouver le greffon. Or, trouver le greffon, du fait de la rareté de l'état de mort cérébrale dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ça conduit à une situation de pénurie constante de greffons et ça conduit les chercheurs à essayer de trouver d'autres solutions. Je ne parlerai pas des organes artificiels, ça sera peut-être évoqué dans une autre conférence, mais du côté du vivant, eh bien, naturellement, l'homme s'est intéressé à l'animal. Et les premières greffes ont d'ailleurs toujours été ce qu'on appelle des xénogreffes, greffes à partir d'organes animaux. Mais ces xénogreffes exposent à un rejet extrêmement intense. L'homme s'est intéressé pendant un moment aux primates, et puis il a peu à peu abandonné l'idée du primate parce qu'il est jugé aujourd'hui que le primate pourrait être à l'origine de la transmission plus facile d'agents infectieux d'origine animale à l'homme, ce qui fait qu'aujourd'hui, le candidat numéro un pour la greffe d'organes chez l'homme, c'est lui, le cochon. Alors le cochon, il a beaucoup d'avantages, et actuellement beaucoup de chercheurs, des industries pharmaceutiques puissantes, essayent de produire des cochons qui auraient la capacité d'être, qui seraient un petit peu modifiés sur le plan génétique, ce qu'on appelle des porcs transgéniques. On modifierait certaines molécules chimiques à la surface de leurs cellules pour essayer de réduire le risque de rejet et donc de faire en sorte que ces greffons soient mieux acceptés par l'homme. On n'en est pas encore au succès, mais il y a des résultats encourageants de ce point de vue-là. Il y a tout un chapitre, cependant, qui est aujourd'hui très exploré, qui est « Y a-t-il un risque de transmettre un agent infectieux d'origine porcine à l'homme et de cet homme pourrait-il passer à l'espèce humaine ?» C'est une des raisons pour lesquelles actuellement les chercheurs se préoccupent et se soucient beaucoup de cette question de sécurité sanitaire. Quoi qu'il en soit, il est sûr que si un jour on parvenait en toute sécurité à utiliser des greffons d'origine porcine, que ceux-ci ne soient pas rejetés et fonctionnent de manière satisfaisante, on aurait résolu la difficulté principale de la greffe, qui est l'accès au greffon. Alors je voudrais maintenant aborder en dernière partie la question de la greffe en tant que phénomène social. Alors, je voudrais peut-être, juste avant d'aborder ça, dire un tout petit mot du fait que pour obtenir des greffons en grande quantité, eh bien, il est souhaitable de faire un travail d'information du public, je vais y revenir, et d'essayer de mobiliser dans les hôpitaux pour qu'on organise les prélèvements. Et ceci peut être efficace. Et voici l'évolution en France des prélèvements... Oh, pardon, attendez, je reviens en arrière, excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, voici l'évolution en France des prélèvements de cornée. Il y a eu un grand creux en 1993. Et depuis quelques années, vous voyez qu'il y a une amélioration du nombre de prélèvements de cornée qui permet petit à petit de faire face aux besoins en matière de greffe de cornée. La situation doit encore s'améliorer, mais ça veut dire qu'il n'y a pas une fatalité à l'absence de greffon. On peut quand même améliorer les choses à la condition de bien informer le public et de bien mobiliser les établissements de santé, les hôpitaux. Alors j'en viens donc à mon affaire de phénomène social pour dire que la greffe crée une situation tout à fait particulière en médecine en ce qu'elle introduit entre le malade et son médecin une tierce personne. Cette tierce personne nécessaire, qui va être la source du greffon, qu'elle soit d'ailleurs une tierce personne vivante ou une tierce personne décédée, eh bien cette tierce personne, elle pose naturellement des problèmes juridiques de consentement. Elle conduit à ce que, du fait du manque de greffons, on s'interroge sur la justice dans la répartition des greffons et sur l'information du public. Je voudrais dire un petit mot avant de terminer sur ces différents aspects. Alors le cadre juridique, eh bien, en France, il a été défini dès 1949, il a été renforcé en 1976 et depuis 1994, vous savez qu'il y a les lois de bioéthique qui avancent un certain nombre de principes, le consentement, la gratuité des éléments du corps humain, le respect de l'anonymat entre le donneur et le receveur. Et autour de cette loi de bioéthique, il y a un cadre réglementaire extrêmement précis qui définit toutes les étapes qui vont de la constatation de la mort jusqu'aux autorisations de prélèvement, aux règles de bonne pratique de prélèvement, aux règles de répartition des greffons, aux règles de sécurité sanitaire, à l'autorisation des équipes de greffe, etc., etc. Toutes les étapes qui vont du prélèvement à la greffe sont aujourd'hui l'objet d'un cadre qui font que la greffe est certainement aujourd'hui une des pratiques thérapeutiques les plus encadrées en France. Alors, ce cadre juridique, il comporte une dimension tout à fait particulière qui est celle d'une nécessaire préoccupation de justice. Pour la raison que vous avez compris, c'est qu'il y a plus de malades en attente. Aujourd'hui, il y a à peu près en France 5800 malades en attente d'une greffe d'organes que de greffons disponibles. Il faut donc élaborer des règles précises qui soient capables d'inspirer confiance aux malades et au public. Ces règles de répartition, elles ont été élaborées en France par l'ensemble des professionnels de la greffe, mais également il y a eu une commission de consultation publique qui s'est rassemblée. Ces règles obéissent à un certain nombre de principes. Premièrement, essayer de sauver les plus menacés. Essayer tout de même de donner une chance aux malades qui, pour des raisons médicales, n'ont pas accès à la greffe, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils ont une morphologie particulière, parce qu'ils ont un groupe sanguin particulier. Essayer, bien sûr, de faire en sorte qu'on ne perde pas de greffons. Et compte tenu des contraintes que je vous ai expliquées, eh bien, on essaye, lorsque les priorités ont été, je dirais, servies, de faire en sorte que le greffon soit attribué le plus près possible du centre de prélèvement. Tout ceci aboutit à un corps de règles assez complexe qui cherche un chemin entre des exigences qui sont toutes respectables mais contradictoires. Il n'y a pas, bien sûr, de critères de type social, économique, ethnique, religieux qui interviennent. Ces critères sont soit des critères de type médical, soit des critères de type, je dirais, biologique, de morphologie, de groupe sanguin, de groupe HLA en particulier. Ces règles de répartition, eh bien, elles ont en France été... Elles ont été publiées au Journal officiel en 1996 et elles définissent précisément les conditions dans lesquelles les greffons, les organes, sont répartis en France. Il y a également des règles d'attribution pour les cornées qui tiennent compte d'un certain nombre d'urgences. Alors, je crois qu'il faut imaginer aussi que dans certains pays, eh bien, la pénurie est extrême. Et il est sûr que dans les pays où il n'est pas possible d'organiser le prélèvement sur des personnes en état de mort encéphalique, parce que ça réclame des infrastructures très lourdes, des routes, des avions, des réanimations dans tous les hôpitaux, eh bien c'est dans ces circonstances-là qu'on est conduit à voir se développer beaucoup le prélèvement à partir de personnes vivantes et que dans certains pays, on a pu observer des trafics à type de commerce d'organes, de personnes vendant un rein. Et bien sûr, ça a été aussi un des éléments qui a donné racine un tout petit peu à certaines rumeurs, en particulier rumeurs de vol d'organes, qui bien sûr aujourd'hui n'ont pas de fondement dans la réalité, mais qui circulent de par le monde comme forme, je dirais, à la fois d'un sentiment d'injustice de la part de certaines populations défavorisées ou comme forme de diabolisation d'un certain progrès médical. Alors j'en viens, et je vais terminer sur ce point, à la question de l'information du public. Vous avez bien compris que chacun d'entre nous est finalement concerné, non pas tant en tant que malade, parce que la greffe ne concernera pas chacun d'entre nous, mais est concerné parce que nous sommes susceptibles, à l'occasion d'un décès brutal ou pas brutal, d'être partie prenante dans cette affaire. Et toute la question est de savoir comment informer le public sur ces questions qui touchent à un sujet très intime, la mort, le corps. Comment essayer d'être à la fois incitatif sans être intrusif? Alors, il y a eu un discours qui s'est développé, et que vous connaissez, sur le don d'organes, qui appelle à une certaine générosité, qui tente d'inscrire le prélèvement en vue de greffe dans l'esprit du don. Il y a des aspects positifs à cette présentation des choses, car ça a une certaine analogie avec une forme d'échange qu'on observe au sein de la famille, le don, mais c'est sûr que ça ne peut pas masquer le fait que il est difficile pour une personne décédée de donner véritablement après sa mort. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'information s'efforce d'être plus descriptive de qu'est-ce que c'est que le prélèvement, qu'est-ce que c'est que la greffe, en quoi c'est utile, et d'inviter surtout chacun d'entre nous à une prise de position, à une décision personnelle, à la communication de cette décision en famille, pour que le cas échéant, eh bien, la famille puisse se faire le témoin de la volonté du défunt. En France, et comme dans d'autres pays, il a été décidé qu'il y avait un a priori de solidarité. On a adopté le principe du consentement présumé, c'est-à-dire que tout le monde, a priori, accepte l'éventualité d'un prélèvement, sauf si s'y est opposé de son vivant. Et on a mis en place pour cela un registre des refus qui rassemble aujourd'hui 45 000 personnes. Mais dans d'autres pays, eh bien, on a choisi un régime qui met plus l'accent sur la liberté, qui est le régime du consentement explicite, qui conduit dans certains pays à ce qu'on fasse un registre des « oui », registre qui a beaucoup de mal, cependant, à attirer des personnes à s'inscrire. Alors, je voulais vous montrer pour terminer une petite photo du document qu'on vous a distribué. J'espère que ce document vous sera utile. Et voilà. Et je voulais donc terminer cet exposé en disant que la greffe est, je crois, un archétype certainement de la médecine moderne, la médecine active, qu'elle a un prix. Ce prix, c'est un prix pour chacun d'entre nous, mais aussi un prix pour la société, non pas bien sûr seulement sur le plan économique, mais parce qu'elle nous oblige à regarder en face un sujet qui n'est pas forcément un sujet qu'on aborde facilement, qui est celui de sa propre mort. Et enfin, je voulais terminer sur l'idée que si la greffe fascine beaucoup, c'est parce qu'elle a une dimension symbolique extrêmement forte et qu'elle a dans sa nature même quelques analogies avec le symbole. Comme dans le symbole, il y a le rapprochement de deux éléments différents, il y a l'émergence de quelque chose de neuf, en l'occurrence pour le malade, la possibilité de continuer à vivre, et ceci a un certain sens, et le sens qu'on essaye de lui donner, et que d'ailleurs la plupart des gens perçoivent, c'est que ça ressort du combat pour la vie et de la solidarité. Merci.
Vous avez assez peu parlé des greffes familiales.
Oui,
c'est quand même une réalité qui existe et qui est plus développée dans certains pays qu'en France.
C'est juste. J'ai assez peu parlé des greffes familiales parce qu'en France, ça représente 4% des greffes de reins. C'est une pratique qui est possible légalement dans un cadre familial très strict en France, très réduit. Père, mère, frère, sœur, parents, enfants. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est un peu plus développé. Ça pose de difficiles problèmes de consentement, de recueil du consentement, de liberté du consentement. Ça expose le donneur à un risque. En revanche, pour le receveur, ça évite l'attente et ça donne des résultats qui, parfois, sont meilleurs que l'utilisation d'un greffon provenant d'une personne décédée. J'ai oublié d'ajouter, excusez-moi, que ça concerne essentiellement la greffe de rein, mais ça peut concerner aussi le foie, voire exceptionnellement le poumon.
Vous avez parlé de 3000 greffes pour tous les organes confondus par an. Il y a 5800 en attente, c'est ça que vous avez dit, au total. Mais alors, en ce qui concerne le foie, est-ce qu'on peut être plus spécifique d'abord? Puis j'ai une autre question encore, après, de sa part.
Voilà. Très bien. Alors là, je vais être très précis. Pour ce qui est du foie, on réalise chaque année en France à peu près 700 greffes. Donc vous voyez, sur les 3000, la grande majorité sont des greffes de rein. Il y a 700 greffes de foie. Et les malades en attente de greffe de foie en France sont aujourd'hui d'environ 300. Voilà. Pour vous donner un aperçu, les greffes de cœur, il y a 250 malades en attente et on fait à peu près 300 greffes chaque année. Les autres greffes se font moins fréquemment.
Oui. Je voulais vous demander en quoi consistait exactement le système HLA, je crois que ça s'appelle comme ça, concrètement. Quel est le support, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de mesurer la distance entre deux personnes, quelque chose comme ça. Et d'autre part, est-ce qu'il y a un renouvellement des cellules qui fait qu'à un moment donné, l'organe greffé devient de nouveau un organe de la propre personne et non plus un organe extérieur, externe?
Alors, le système d'histocompatibilité, c'est un système de molécules chimiques qui sont exprimées à la surface des cellules, qui repose sur un ensemble de gènes dont la caractéristique principale est l'extrême polymorphisme. Extrême polymorphisme, ça veut dire que la probabilité de trouver deux personnes identiques sur le plan d'histocompatibilité est excessivement faible. C'est ça la caractéristique principale du système d'histocompatibilité. Alors, c'est très important en matière de greffe de moelle osseuse, c'est moins important en matière de greffe d'organes parce que les médicaments immunosuppresseurs arrivent à pallier les différences qu'il peut y avoir du point de vue de l'histocompatibilité. Quant à votre deuxième question, le greffon n'adopte jamais une identité qui est celle du receveur. Il peut être peuplé par certaines cellules du receveur, de même que certaines cellules du greffon peuvent aller peupler le receveur. Et on parle alors d'ailleurs d'un certain chimérisme. Mais le greffon reste quand même un organisme qui, dans la grande majorité de ses cellules, a les caractéristiques du donneur.
Je voulais poser deux questions. Est-ce que vous pourriez dire deux mots de la maladie du greffon contre hôte? Et deuxièmement, étant donné les progrès de la réanimation, une respiration artificielle peut durer très longtemps. En fait, le sujet meurt. Comment le sujet meurt au bout finalement de quelques heures, compte tenu que les anencéphales vivent très longtemps?
Oui. Alors, premièrement, concernant la réaction du greffon contre l'hôte, c'est une réaction qui s'observe essentiellement dans le domaine des greffes de moelle osseuse. Pourquoi ? Parce que la greffe de moelle osseuse est une greffe de cellules elles-mêmes immunocompétentes. Et ces cellules immunocompétentes, eh bien, elles vont exercer elles aussi leur compétence immunitaire en rejetant le receveur. Et si vous voulez, c'est ça la réaction du greffon contre l'hôte, c'est une sorte de rejet inversé du greffon contre le receveur. Ça peut s'observer aussi après greffe d'organes, mais très rarement. Et après greffe d'organes, le plus souvent, c'est le receveur qui rejette le greffon. Concernant la mort encéphalique, la destruction complète du tissu cérébral aboutit en particulier à la disparition de tous les phénomènes, les mécanismes de régulation de certaines fonctions vitales comme la respiration et surtout le fonctionnement cardiaque. Ce qui fait que ce qui se produit lorsqu'une personne est en état de mort encéphalique, c'est que malgré l'assistance respiratoire, qu'effectivement, elle, on peut poursuivre, eh bien, le fonctionnement cardiaque, lui, ne peut pas être assisté plus de quelques heures. Quoi qu'on fasse, on a beau injecter de la dopamine éventuellement à grande dose, au bout d'un moment, le cœur s'arrête. Et en fait, c'est cette incapacité d'une personne en état de mort encéphalique à maintenir une activité cardiaque qui est la responsable de l'arrêt du cœur, si vous voulez. La situation de l'anencéphale est une situation effectivement qui a certaines analogies avec la mort encéphalique, sauf que je ne crois pas que dans la situation de l'anencéphalie, il y ait une atteinte aussi profonde des centres régulateurs de la respiration et du fonctionnement cardiaque, ce qui fait que certains anencéphales, peut-être expliquer que les anencéphales sont des enfants mal formés, il y a une malformation très grave qui est l'absence de cerveau. Et cette malformation très grave, effectivement, aboutit à l'arrêt du cœur, mais effectivement, comme vous l'indiquez, parfois après un délai qui peut être de quelques heures ou de quelques jours, c'est vrai. Et en pratique, on ne fait pas de prélèvement d'organes chez les anencéphales en France. Il y a eu quelques cas, effectivement, dans certains pays de prélèvement d'organes pour des petits-enfants chez des anencéphales.
Oui, bonsoir, monsieur. C'est moi devant vous.
Oui.
Deux petites questions. D'abord, je voudrais vous signaler qu'on a appris récemment dans Le Monde aujourd'hui ou de ce matin qu'il y avait eu une greffe d'un stimulant, d'un implant pour envoyer des stimuli électriques. C'est un truc formidable parce que ça m'amène à poser une question. Quand est-ce qu'on pourra faire marcher un paraplégique et puis faire nager un tétraplégique, à la limite? Et puis ma deuxième question, c'est dans pratique, c'est est-ce que la faculté de médecine de Paris est toujours la bonne, rue des Saint-Pierre, des Saint-Père, pardon, pour faire le don du corps?
D'accord. Alors, pour ce qui est de ce que vous évoquez, c'est-à-dire ce qu'on appelle les implants de puces électroniques, il y a eu effectivement une présentation récente. On est en dehors du domaine de la greffe, là. Il s'agit d'un système artificiel de stimulation électrique qui vise à essayer de faire retrouver une certaine capacité nerveuse à des personnes ayant eu une interruption de la moelle épinière, cette fois-ci, soit assez bas, soit assez haut, dans le cas des tétraplégiques. On est en dehors de la greffe. Bon, il y a eu cette publication qui est intéressante, mais je pense qu'il ne faut pas confondre redonner une station verticale à une personne qui est paraplégique et lui redonner la capacité de marcher. On n'en est pas là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la faculté de médecine des Saint-Pères garde sa compétence pour recueillir des dons de corps. Il s'agit là d'une chose différente du don des organes pour greffe. Il s'agit du don du corps à la science, qui est en fait l'abandon du corps à la faculté de médecine pour que les étudiants en médecine apprennent l'anatomie. Alors effectivement, la faculté de médecine des Saint-Pères, je crois, est dans cette situation-là. Dire qu'elle est bonne, en tout cas, elle est toujours rue des Saint-Pères. Mais il y a d'autres facultés de médecine qui, je ne porterai pas de jugement comparer sur les facultés de médecine en France.
Merci, d'une part. Et je voulais demander, est-ce que la prise de médicaments est inévitable pour éviter le rejet du greffon? Et d'autre part, est-ce qu'après la greffe, le receveur donc retrouve une vie normale ou est-ce qu'il y a quelques contraintes ou handicaps?
Alors, aujourd'hui, en matière de greffe d'organes, ça n'est pas le cas pour les tissus où il n'y a pas besoin de traitement immunosuppresseur, mais en matière de greffe d'organes, le traitement immunosuppresseur est inévitable. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à créer la situation idéale qui est celle de la tolérance immunitaire, qui verrait un receveur, je dirais, accepter totalement le greffon tout en restant compétent vis-à-vis des virus, des parasites et autres bestioles. Donc, la tolérance immunitaire, on n'est pas capable de l'induire chez l'homme, et donc on est contraint au traitement immunosuppresseur. La greffe n'est jamais le retour à l'innocence biologique. C'est-à-dire que c'est un état qui se caractérise par la prise de médicaments, qui peut être compatible avec une vie tout à fait normale. Les enfants reprennent une croissance si elle s'était interrompue. Il y a des femmes qui, assez rapidement, peuvent avoir des enfants. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont une vie de famille, il y a des gens qui vivent depuis 10 ans, 15 ans et probablement qui vivront encore plus longtemps et qui ont une vie d'apparence tout à fait normale. Mais ça n'est pas, cependant, la situation d'avant la maladie, d'avant la greffe. Il y a des inconvénients au traitement, nécessairement. Écoutez, j'ai pas en tête les je sais qu'il y a des je sais qu'en France il y a un greffé du rein qui a été greffé depuis 20 ou 25 ans. Moi je connais des malades pour les avoir greffés, des enfants qui sont en vie depuis bien plus de 10 ans. Et je pense que aux États-Unis, il y a également certainement des malades qui sont greffés depuis plusieurs dizaines d'années du rein ou du foie. Mais bon, on manque de recul, si j'ose dire, c'est-à-dire que pour ce qui est de la durée maximum, il faut attendre encore un peu, hein. Heureusement d'ailleurs. Alors, la greffe de main, effectivement, est une greffe qui a été tentée récemment, qui est une greffe qu'on qualifie de multitissu. C'est-à-dire, c'est une greffe qui associe la greffe de plusieurs tissus, des os, des tendons, des veines, de la peau, qui pourrait être un traitement utile pour certaines personnes ayant une amputation bilatérale en particulier, qui représente un handicap important. Les tentatives qui ont été faites récemment ont apporté une information utile et nouvelle qui est que on a l'air de pouvoir maîtriser le rejet, qui semblait être une complication très importante de ce type de greffe. Il reste cependant aujourd'hui à acquérir beaucoup d'informations et de compréhension sur la capacité de ces greffes à permettre aux malades de récupérer une fonction. On ne sait pas en fait encore aujourd'hui quelle va être la réelle capacité de récupération fonctionnelle de ces malades, c'est-à-dire la mobilité, la sensibilité et la force.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez des travaux qui sont pour l'instant des travaux de laboratoire qui consistent à générer des organes à partir de cellules prélevées chez le patient.
Oui, alors j'aurais dû en parler, effectivement. Effectivement, une des possibilités de trouver un jour une solution au manque de greffons, ce serait d'essayer de produire des greffons, je dirais presque en incubateur. On le fait pour certains tissus. On arrive à cultiver des cellules de peau et à fabriquer des quelques centimètres carrés, voire plus de peau. On n'est pas capable aujourd'hui de cultiver des cellules qui auraient la capacité de se différencier en plusieurs types de cellules et qui seraient capables d'aboutir à une structure à la fois complexe sur le plan de la composition cellulaire et sur le plan de l'architecture en trois dimensions qui est un organe. Mais peut-être un jour, lorsqu'on aura fait des progrès en biologie cellulaire, en génétique moléculaire, il est possible qu'on arrive un jour, à partir d'une cellule, à construire un rein in vitro, c'est-à-dire en incubateur. Aujourd'hui, on n'en est pas capable. Mais je pense que c'est une voie de recherche importante.
S'il vous plaît, est-ce qu'on peut greffer un pancréas et guérir le diabète ?
Alors, la greffe de pancréas, effectivement, est en mesure d'apporter une substitution convenable au diabète insulinodépendant, c'est-à-dire quand il y a un diabète par manque d'insuline. C'est une greffe qui se fait aujourd'hui essentiellement en jonction avec une greffe de rein chez des gens qui ont déjà une insuffisance rénale, complication de leur diabète. Les résultats se sont améliorés au fil des années, mais les diabétologues aujourd'hui sont encore un peu hésitants à l'idée de proposer ce traitement à des gens qui ont pour seul inconvénient, c'est un grand inconvénient, mais ça n'est quand même aujourd'hui qu'un seul inconvénient, qui est de devoir prendre de l'insuline tous les jours. Parce que la greffe du pancréas est quand même une opération chirurgicale qui n'est pas sans risque, et que donc il faut peser finalement le risque de tenter la greffe et l'avantage qu'on peut en espérer. Mais ça peut évoluer, ça. Hein.
Bonsoir. J'aimerais vous demander si, en matière de greffe, il n'y a absolument aucun risque pour que la vie d'un malade grave ne soit pas abrégée au profit d'un autre malade, au moment où l'on parle de plus en plus d'euthanasie. En d'autres termes, ne risque-t-on pas dans le futur d'accélérer, entre guillemets, la mort d'un malade condamné pour soigner celui qui peut être sauvé ?
Écoutez, je crois que là, vous mettez le doigt, effectivement, sur une préoccupation qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que si, effectivement, on en venait à sacrifier les uns pour soigner les autres, on tomberait dans un monde extrêmement inquiétant. Je crois que vous avez raison d'autant plus d'avancer cette inquiétude. Bon, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas la réalité. Vous évoquez une crainte qui n'est pas la réalité. Mais je sais que certaines personnes ont envisagé ou ont avancé l'idée qu'une personne en état végétatif chronique, c'est-à-dire en coma chronique depuis de longues années, ayant perdu toute chance, toute possibilité de réveil, n'ayant aucune vie de relation avec quiconque, eh bien, cette personne pourrait être considérée comme morte. Et donc pourrait être une personne sur le corps de laquelle on pourrait faire un prélèvement d'organes en vue de greffe. Cette position est défendue, je sais, par certaines personnes dans des revues spécialisées. Je dois dire qu'elle attire aujourd'hui un rejet massif de la part de tous ceux qui ont à éventuellement réfléchir et faire des propositions dans ce domaine. Mais je crois que la crainte que vous avancez, elle doit être prononcée parce qu'effectivement, toute avancée technique médicale, on peut supposer des dérives. Et ça vraisemblablement, serait une majeure.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez parlé du Coran. Vous avez dit que dans le Coran, on a aussi parlé de greffe. Je ne sais pas qui vous a informé, parce que ça n'existe pas. Allah, il a dit que j'ai créé les hommes, les animaux, les djinns, et j'ai honoré l'homme en lui donnant le savoir et la science. Et agissez selon la science, vous ne pouvez pas ajouter une seule seconde, ni retrancher une journée de la vie que je vous ai prescrite.
Oui, alors... pardon.
Oui, alors peut-être... avez-vous fait une confusion avec un autre verset où il dit parce que des gens ne voulaient pas croire, il les a transformés en singes et en cochons. Est-ce que actuellement, puisque vous avez dit que le cochon est le seul compatible pour les greffes, est-ce que nous sommes dans la même direction?
Non, alors je crois que vous avez raison, j'ai peut-être pas été assez précis. La référence à laquelle la référence que je mentionnais, c'est une sourate qui s'appelle la famille d'Imran, qui fait référence à... et la référence al-Masih, qui est en fait Jésus-Christ, finalement, où on fait référence à ses vertus thérapeutiques. C'était plutôt les vertus thérapeutiques de Jésus qui sont mentionnées dans le Coran, je crois, sous le nom, qui est mentionné sous le nom d'al-Masih, et c'était à ça que je faisais allusion. Voilà, c'est ça. C'est ça. La référence qu'on fait, c'est qu'effectivement, on rappelle que Jésus a eu la capacité thérapeutique de réimplanter certains éléments du corps. Mais vous avez raison, ce n'était pas assez précis sur le plan de la greffe.
Les régulateurs cardiaques, vous avez considéré que vous êtes...
Non. C'est pas une greffe.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que l'Agence française pour les greffes envisageait de faire pour promouvoir justement les greffes, et donc enlever toutes ces idées reçues, comme vous disiez, sur le coma, sur la mort cérébrale.
Je crois que c'est un sujet difficile. Je crois que l'établissement français des greffes, il a une mission effectivement d'information du public. La réunion d'aujourd'hui, je dirais, d'une certaine manière, en fait partie. Il a un rôle d'information et de sensibilisation des professionnels de santé, ce qui est également une tâche importante. Bon, je crois que c'est ça, mais moi je crois qu'on ne peut pas imaginer qu'une société adopte un bouleversement tel concernant le corps, la mort, en un instant, et ça va demander des années d'adaptation, d'éducation, de compréhension. Je pense que c'est un travail de longue haleine. On ne va pas d'un coup de baguette magique faire de tout le monde des gens qui auront compris et admis l'idée du prélèvement et de la greffe. Je ne pense pas.
Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur.
Bonsoir,
je vous remercie de votre exposé qui était passionnant. Je voudrais vous demander, moi je suis donneuse d'organes depuis très longtemps, j'ai la carte d'ailleurs sur moi. Est-il vrai qu'à partir d'un certain âge, on n'accepte plus les organes et qu'on ne peut plus donner son corps à la science?
Alors, je ne parlerai pas du fait de donner son corps à la science, qui est un domaine un petit peu différent, mais concernant l'âge du prélèvement d'organes, il n'y a pas vraiment de limite. Ce qui compte, c'est que les organes soient utilisables. Donc, on peut prélever des cornées chez quelqu'un de 70 ou 80 ans, on peut prélever un rein qui fonctionne chez quelqu'un de 65, 70 ans, un foie également. Un cœur, c'est un peu plus difficile parce que le cœur, bien souvent, avec l'âge, les artères coronaires, les artères du cœur se chargent d'athérome et on a du mal à prélever un cœur fonctionnel après 50, 60 ans. Donc, voilà, en gros, il n'y a pas de limite d'âge. Et les examens qui sont faits sur la personne décédée permettent de distinguer si oui ou non les greffons peuvent être utiles ou non. En général, pour des raisons de taille, les greffons des enfants sont utilisés essentiellement pour les enfants, à la fois pour des raisons, je dirais, morphologiques, et aussi parce qu'il y a un certain degré de priorité dans les règles de répartition des greffons qui est donné aux enfants. Donc pour ces deux raisons, les greffons des enfants, pratiquement tout le temps, vont à des enfants.
Bonsoir, je suis tout en haut. Voilà, j'aurais deux questions.
Oui.
La première, je voudrais savoir quelle est la nature du suivi psychologique qui est proposé au receveur. Et d'autre part, suite à un échec d'une première greffe, est-il possible d'en recommencer une? Et puis, quelle est la limite, en fait?
Bon, le suivi psychologique, je crois que si vous voulez, le bien-être psychique des personnes ayant eu une greffe, ça fait partie des préoccupations médicales du suivi d'une personne ayant eu une intervention et un traitement de cette ampleur. Et il peut y avoir effectivement parfois des manifestations pathologiques, à type de dépression, à type près même parfois de syndrome de sentiments d'anomalie de caractère psychiatrique qui doivent être prises en charge et soignées, alors quelle que soit la méthode thérapeutique. En ce qui concerne la possibilité de refaire une greffe, oui, ça arrive. Ça arrive qu'après l'échec d'une première greffe, eh bien, on soit conduit à tenter à faire une deuxième. C'est même arrivé qu'on fasse une troisième, voire même exceptionnellement une quatrième greffe. Moi, je connais au moins deux ou trois enfants qui ont eu trois greffes de foie et qui maintenant vont bien. Mais il a fallu faire face à des complications qui ont imposé de nouvelles greffes. Merci.